là-dessus, il est midi 10, passé de quelques secondes, on va passer donc à notre interview. Alors, Françoise Dasque, on l'a dit en début d'émission, vous êtes comédienne, vous avez joué dans de nombreuses pièces de théâtre et de films, et puis, l'année de vos 50 ans, un jour de novembre, vous avez décidé de mettre entre parenthèses la comédie pour rallier seule la France au Japon en 20 mois, et majoritairement à pied. C'est une expérience que vous avez décidé de faire partager d'abord dans un blog, et puis dans un livre, Deux bras, deux jambes, quatre raisons d'aller au bout du monde. Et puis ensuite, vous en avez fait une pièce que vous jouez actuellement à la comédie Saint-Michel à Paris. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre, Deux bras, deux jambes ?
Deux bras, deux jambes, c'est quelque chose qui est devenu mon leitmotiv à la suite d'un accident de moto où je me suis retrouvée plâtrée des orteils jusqu'à la hanche. Et là, j'ai compris à quel point c'était précieux, deux bras, deux jambes. J'ai inscrit ces quatre mots sur l'écran d'accueil de mon téléphone portable à l'époque pour tous les matins me rappeler que j'avais la chance d'être en possession de ces deux bras et ces deux jambes. Utiliser cette chance, en profiter au quotidien, mais également y faire attention, conserver ce potentiel. Et tout ça m'a emmenée des voyageurs, des montagnes, de l'escalade, des tas de choses qui m'ont donné l'envie d'aller voir toujours plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, ce qui a donné un voyage à pied dans un souci de liberté absolue, vers l'Est, parce que c'est là qu'on ne va pas rencontrer d'océan tout de suite, à traverser. Donc c'est ce qui a donné la direction Est avec mes deux bras et mes deux jambes.
Et alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce voyage ?
Je crois que c'est cet accident, mais sur le long terme, c'est-à-dire qu'entre l'accident et le moment où je suis partie, c'est passé 10 ans. Pendant,
ah oui.
Oui, quand même, parce que j'avais deux enfants, du travail, etc., et qu'il fallait que j'arrive à préparer ce voyage pour n'avoir aucune raison d'avoir à revenir, mais aucune raison de continuer non plus, à part la curiosité. C'est-à-dire que j'ai dû attendre que mes enfants soient grands, majeurs, vaccinés, qu'ils aient le bac, le permis, une petite amie, enfin. Toutes ces choses qui font qu'on se sent tout de suite beaucoup moins indispensable. Et j'ai loué ma maison, ce qui m'a fait un budget de 300 euros par mois à peu près, et qui m'a permis d'aller toujours tout droit vers l'Est.
Et alors, on s'imagine que pour une femme seule sur les routes pendant 20 mois, ça n'a pas dû être de tout repos. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant le voyage ?
Alors, je pense qu'être une femme seule est plutôt un avantage.
Ouais.
Les gens ont envie de vous protéger dans la plupart des pays. Et puis, il y a des sortes de codes. Après, ça s'adapte à chaque pays. Et il faut faire comprendre aux hommes, notamment, qu'on remet sa vie entre leurs mains. C'est-à-dire qu'on leur donne une responsabilité. Et du coup, tout ce qu'ils fantasmaient pour eux-mêmes, ils se mettent à le fantasmer vis-à-vis des autres. En se disant, il faut que je la protège de tout ce que les autres pourraient avoir envie de faire et pourraient penser. Et sont bien placés pour savoir qu'eux-mêmes auraient pu être à cette position-là. Enfin, voilà, c'est tout un travail comme ça qui est très intéressant par rapport aux rencontres. Et puis, en tant que femme, on n'est pas un danger pour les autres. On n'est pas un danger pour une femme seule. On n'est pas un danger pour une famille. On n'est pas trop un danger pour un homme. Donc, l'accueil est, je pense, beaucoup plus chaleureux et systématique dans la plupart des pays.
Donc, vous n'avez pas rencontré de difficultés physiques ou d'adaptation particulière ?
Après, je dirais que c'est le voyage qui a été le personnage principal de cette histoire. C'est pas moi, c'est lui qui a tout décidé. À partir du moment où je suis partie vers l'Est, j'ai dû me confronter aux saisons, au relief, au visa, à tous les problèmes administratifs, géopolitiques, etc. Donc, je ne faisais plus vraiment de choix. J'essayais simplement de garder ma ligne de conduite qui était « je marche vers l'Est ». Après, la taille des visas étant inversement proportionnelle à la taille des pays, j'ai dû m'adapter et faire du stop pour sortir du pays avant que le visa n'arrive à expiration. D'autres fois, quand j'ai pas du tout pu avoir de visa et que tout l'Est était bloqué à la fois pour des raisons climatiques et des raisons géopolitiques, j'ai dû prendre un avion, par exemple, ou parfois un bateau pour aller au Japon, entre autres, hein, de la Chine au Japon. Et voilà, je décidais plus de grand-chose. À la fois, j'étais 100% décideuse sur ce voyage, dans une liberté absolue, justement, qui fait qu'à chaque moment, je pouvais me demander, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? Est-ce que j'ai toujours cette curiosité ? Où est-ce que je rentre chez moi? Où est-ce que je change de direction? Voilà, tout m'appartenait et en même temps, tout m'échappait.
Et donc, le but de ce voyage, c'était de faire des rencontres, de rencontrer des gens. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué, qui vous vient là, comme ça? Je sais que c'est difficile comme question.
Une par jour ou une pour tout le voyage? Voilà, c'était à peu près une par jour, au moins. Après, justement, voilà, les rencontres, je pense, les plus marquantes sont dans le spectacle. Et comme, justement, vous parliez du Kurdistan tout à l'heure, une des plus belles rencontres a été avec une jeune femme du Kurdistan iranien que j'ai rencontrée près de la mer Caspienne, qui était exceptionnellement en vacances avec des amis IES à elle, mais chaperonnée par le mari d'une de ses amies.
Bien entendu.
Et elles m'ont invitée au Kurdistan. Et pendant que j'attendais mon visa indien à Téhéran et qu'il fallait que j'attende 15 jours, j'ai pris un bus et je suis allée rejoindre cette jeune femme dans sa famille. Et c'était une aventure magnifique.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle... Alors, je préfère ne pas dire son nom.
D'accord.
Mais Schlier, c'est un pseudo.
D'accord. Et elle avait quel âge ?
Elle avait 30 ans et elle était prof d'anglais dans un institut. Les instituts sont des sortes de cours privés parce que justement les Iraniens parlent très 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 bien l'anglais, mais il leur faut pour ça prendre des cours privés parce qu'à l'école justement ce n'est volontairement pas vraiment bien enseigné. Mmh. Et depuis mon passage, elle a essayé de reprendre ses études pour pouvoir obtenir un visa pour l'étranger, un visa étudiant. Elle a beaucoup de mal, mais voilà, ça l'a complètement redynamisée de voir que une femme peut parcourir le monde à pied comme ça et que c'est pas plus compliqué que ça.
On voit
pour nous.
On voit que vous avez marqué les gens que vous avez rencontrés, mais je suppose que ce voyage vous a marqué vous aussi profondément.
Oui, bien sûr. Oui.
Comment on ressort après 20 mois sur les routes ?
Je sais pas. J'ai tendance à dire aux gens, mais non, je n'ai pas changé du tout. Soi-même, on ne se rend pas compte des changements qui peuvent s'opérer. Je dirais que je suis revenue avec deux choses qui m'ont profondément marquée, c'est-à-dire que deux bras, deux jambes, au départ, c'était, voilà, je vais les utiliser, ces deux bras et deux jambes. Et puis, à l'arrivée, c'était, mais en fait, oui, on a tous deux bras, deux jambes, donc je pourrais parcourir la planète pendant encore 10 ans. Tous les jours, l'accueil sera là, tous les jours, voilà, tous ces gens que je vais rencontrer ont majoritairement deux bras et deux jambes, donc ça sera bien, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a une chose que j'ai apprise à faire, qui est d'accepter de recevoir. Parce qu'en fait, acheter, bon, c'est finalement très gratifiant. Donc pas forcément si difficile que ça. Mais recevoir au quotidien, on a l'impression, nous, de ne jamais rien donner en échange. Alors que oui, bien sûr, on donne, mais on ne s'en rend pas compte. Et on a l'impression de recevoir. Au début, c'est très, très difficile. Et je crois que j'ai appris un petit peu à recevoir et c'est pas facile.
Ça fait une bonne conclusion pour cette interview. On va rappeler donc les infos pratiques pour votre livre qui est disponible en librairie et votre spectacle Deux bras, deux jambes. Il est joué jusqu'au 30 décembre, les jeudis et vendredis à 19h30 à la Comédie Saint-Michel. La Comédie Saint-Michel, c'est au 95 boulevard Saint-Michel à Paris, dans le 5e, RERB Luxembourg. Oui.
Oui, il y a aussi le site debrasdejambes.fr.
D'accord.
Sur lequel on retrouve absolument
c'est le blog,
toutes
en fait.
Les dates. C'est un site internet, debrasdejambes.fr.
D'accord.
Deux en chiffres.
Et donc pour le spectacle, c'est 24 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit. Là-dessus, on va faire une petite pause musicale avec un titre de Dick Annegarn qui s'appelle Hey Hey Hey. Pourquoi ce titre ?
Alors c'est une chanson que je me suis chantée très 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 souvent. Qui me revenait systématiquement. C'est drôle parce qu'il y a des tas de choses qui vous reviennent qui n'étaient pas forcément ce que vous écoutiez tous les jours avant de partir. Mais chaque fois que je voyais un village au loin, un château à plus forte raison, ou quoi que ce soit, parce que quand on va à pied, souvent on voit les choses de très, 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 très loin comme ça. Et j'avais toujours cette mélodie en tête et je chantais ça en m'approchant des lieux où je me rendais. Hey, 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 et j'appelais les gens et... Et j'ai été très contente quand je suis rentrée en France et que j'ai retrouvé cette chanson.
Et ben on écoute tout de suite Hey 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 de Dick Annegarn. C'est parti.
Sur la plus haute branche du bouleau, je crie Hey Hey Hey. Je suis content, c'est bien d'être assis ici. Hey Hey Hey. À perte de vue, une forêt qui n'en finit plus. Qu'est-ce que c'est vaste pays? Qu'est-ce que c'est que ça, là loin, ce château là-bas? je suis bien curieux. Je vais m'y rendre sur mon cheval de feu. Ça va me prendre un jour ou deux. Mais j'ai grand besoin de voir du monde. J'ai besoin qu'on me réponde. Château, je crie, hey, hey, hey. Je voudrais qu'on m'ouvre, qu'on m'abaisse ce pont-levis. Ça fait 3 jours et 3 nuits que j'ai pas dormi. Je suis un chevalier. Un gentilhomme vous demande de le recevoir, rien que pour une nuit. Il n'y a personne, c'est que ça m'étonne. Un château solitaire. Mauvais présage, soyons sages. Passons par derrière. De la plus haute tour du château, je crie. La plaine est vaste, la terre est infinie. Hey, hey, hey. C'est bien d'être seul, c'est bien d'être chevalier. Dans un château délaissé. Et seul à seul avec ma destinée. Je crois que je vais rester. Mais il me manque une compagne ou un compagnon. J'avais oublié. Vaudrait peut-être mieux que je regagne la plaine et les monts et mon boulot.
On écoutait Hey 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 de Dick Annegarn, une chanson choisie par notre invitée du jour Françoise Das, qui est partie 20 mois avec son sac à dos et qui a marché jusqu'au Japon. Eh oui, il y a des gens comme ça.